Grâce à Théophile et à Louis, nous pouvons, nous aussi, réapprofondir notre foi. Tout à l'heure, ils liront un texte qu'ils ont écrit, juste avant que nous professions ensemble le credo. Et je suis sûr que, en relisant ce texte, ils se disent « c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui ». Parce qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, à chaque fois que nous faisons une expérience de rencontre avec quelqu'un, qu'un événement se passe dans notre vie, notre foi est bousculée, notre foi est transformée, notre foi est métamorphosée et nous avec. Et le meilleur moyen pour que les choses se transforment, se métamorphosent, c'est la fracture, c'est la cassure, c'est parfois même l'échec. Il y a des moments dans notre vie où nous avons l'impression que nous touchons le fond. Et c'est un petit peu ça qui arrive dans la lecture de l'Apocalypse. Les chrétiens touchent le fond, ils sont persécutés. Et c'est dans ces profondeurs-là, de la souffrance et de la peur, que Jean écrit ce que nous avons entendu lire. Et c'est aussi dans l'Évangile, au milieu de cette fracture qui se réalise au tout début de cette page d'Évangile, et c'est ce que nous disait le Dominicain la semaine dernière, pour ceux qui étaient à la sortie paroissiale, il faut attendre que Judas sorte et qu'il aille le livrer pour que Jésus dise « Déjà, je suis glorifié ». Jésus annonce déjà sa gloire parce que la mort n'est plus la fin. Mais alors me direz-vous, mais nous, en quoi sommes-nous concernés? Ah, si vous lisez bien cette page d'Évangile que nous venons de proclamer, qu'est-ce que vous pourrez y trouver? Dans la première partie, on nous dit beaucoup de choses sur la glorification. Le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui, et si Dieu est glorifié en lui, Dieu glorifiera lui en lui, et il glorifiera lui bientôt, c'est-à-dire tout de suite. Ça fait beaucoup de glorification tout ça. Glorifier, proclamer la gloire de Dieu, célébrer avec éclat un événement, une action particulièrement remarquable. C'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse. Mais là, ce début d'évangile qui tourne autour de gloire. La gloire. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons chanté la gloire de Dieu. Ah oui, parce que du coup, dans ce paragraphe-là, on a l'impression que il y a Dieu, il y a la gloire et il y a lui. Lui, c'est le Fils. Ah, par contre, on a l'urgence du temps. Maintenant, tout de suite. Dans la deuxième partie de ce texte, c'est comment Dieu va être glorifié. Comment est-ce que Dieu peut être glorifié? Quelle est l'action du disciple pour que Dieu puisse être glorifié? Eh bien, c'est la suite. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, pour que aussi vous vous aimiez les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au début, on a ce jeu entre Dieu et lui dans le texte, et à la fin, c'est toujours les uns les autres, les uns les autres, les uns pour les autres. Vous avez remarqué comment Dieu est glorifié? Tout simplement parce que les disciples témoignent aux yeux de tous de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. C'est pas très sorcier tout ça, vous allez me dire. Ah si, attention, parce que pour pouvoir aimer celui qui est en face de moi, il faut que je puisse reconnaître que celui-là, il n'est pas forcément quelqu'un que j'aime parce que c'est mon pote, il n'est pas forcément quelqu'un que j'aime parce que je le connais bien, mais parce que d'abord, il est fils de Dieu, qu'en lui, il y a la lumière de Dieu. Et je dirais même plus, qu'en lui, il y a le nefesh de Dieu, c'est-à-dire le souffle de vie. Vous savez ce qui est à l'origine quand Dieu souffle dans les narines du premier homme pour qu'il vive. Ce souffle-là, qui est divin, il est en tous les hommes et il est en tous les êtres animés de la création. Je dois donc aimer tous ces êtres vivants parce que si je le fais, je glorifie Dieu. Alors vous allez me dire, mais ok, très bien. Mais comment je fais pour glorifier Dieu? Je ne le connais même pas. Ah ben on apprend à le connaître, tout doucement. On découvre des choses, peu à peu. On se rend compte qu'il y a des choses qui nous posent question. Oui, la résurrection de la chair. Tu te rappelles? Ça pose question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? Valentin, est-ce que tu es une lumière de Dieu? Oui. Oui. Je suis sûr que si tu l'avais laissé faire, il serait venu tremper sa main dans l'eau. Et pourquoi faire? Pour se la mettre sur lui? Pour se rappeler son baptême? Sans doute. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin du regard d'amour les uns des autres pour que nous puissions croître dans cette vie qui nous est donnée depuis le baptême, cette vie éternelle et qui fait son lit en nous et qui nous permet de rendre témoignage de cela pour tous. C'est pas très compliqué. Mais y croyons-nous vraiment? Quand nous reprenons le credo, croyons-nous en ce Dieu qui est tout-puissant, en amour, qui nous aime comme un père? Alors c'est sûr, quand on récite notre Père, c'est facile. Notre Père! Oui, non, mais attention, si nous le récitons en ayant dans la tête la mentalité juive ou orientale et en disant notre Père comme si c'était notre petit papa chéri à qui on s'adresse comme quelqu'un de proche qui fait attention à nous, qui nous accompagne à chaque instant de notre vie, qui nous relève, qui nous aime, si nous croyons cela, alors nous pourrons le faire pour ceux qui nous entourent et nous pourrons en être témoins. Et la suite du credo, ce Jésus-Christ qui s'est perché sur une croix, cloué, est-ce que ça a vraiment existé? Oui, c'était d'ailleurs pas le seul à être cloué sur une croix. Il y en avait des milliers et des milliers sur toutes les routes de l'Empire romain. Stratagème le plus sadique possible pour faire mûrir les gens à petit feu. Je ne pense pas qu'on ait réinventé quelque chose d'aussi atroce de nos jours. Et ce Jésus-là qui est suspendu à ce gibet, mais il ne pouvait pas descendre si c'est le Fils de Dieu? Non. Comme je vous le disais au début, il faut qu'il meure d'une mort infâme, d'une mort épouvantable. Il faut qu'il meure de nos propres morts. Il faut qu'il meure de nos propres faiblesses. Il faut qu'il meure de nos propres failles, de nos petitesses, de tout ce que nous sommes de petits, de cassés, pour nous permettre, lui qui meurt, de faire mourir la mort et nous permettre à nous de vivre. De vivre à fond, pas à 100%, ça c'est la vie d'ici, mais à 200%, la vie d'ici plus la vie de là-haut. Déjà maintenant, c'est ce que n'arrête pas de faire ce petit texte de l'Évangile. Ce maintenant, ce tout de suite. Mes petits-enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous, il y a urgence. Aussi, je vous le dis à vous, maintenant, aimez-vous les uns les autres. Quant à l'Esprit-Saint, notre sœur, on était avec les catéchumènes, on a essayé de réfléchir à la chose. Mais l'Esprit-Saint, si Dieu, on se fait une représentation à peu près correcte, comme Père, ça peut marcher, on a l'habitude d'un Père, Jésus le Fils, ok, puis finalement c'était un homme, ok. Mais alors l'Esprit-Saint, d'où ça sort? Mais finalement, comment entre nous il y a du lien? Et comment ce lien est tellement fort que l'on peut même le palper, le toucher, ce lien qui nous unit, comment on peut le ressentir en nous, comment il nous envahit, comment il nous transforme. Peut-être en lisant un texte de la Bible, peut-être en priant, peut-être en étant dans une rencontre en vérité avec quelqu'un. Et comment ce lien-là est vraiment Esprit-Saint. Et comment il nous envahit. Comment il nous invite à aller plus loin encore que ce que nous pensions. Parce qu'à simplement avec nos forces, on n'y arrive pas. Et du coup, c'est tout ça la communauté. C'est tout ça la communauté d'Église qui se raccroche à ce Fils de Dieu fait homme en Jésus-Christ pour nous sauver et pour sauver toute la création. Rassurez-vous, nous ne sommes pas des super-héros. Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'ils sont en blanc aujourd'hui que dans 10 ans, ils seront prêtres. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une obligation. Parce que toute notre vie, nous sommes appelés à vivre quelque chose de particulier et que Dieu appelle chacun de nous à une part du témoignage, chacun à sa façon, chacun selon ce qu'il est, chacun avec son histoire personnelle, avec ses relations, avec son corps, avec sa vie. C'est ce qu'ils vont faire maintenant devant nous et que le témoignage qu'ils portent et qu'ils nous présentent nous transforme, nous métamorphose, nous change, nous fasse grandir dans la foi.